Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Je pense à l'Algérie, je pense à nos 20 ans.
On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça.
Ils sont tous là, à part les morts.
Bernard, arrête.
Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille.
Tais-toi. Fous le camp.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée alors à un livre avant tout et au cinéaste évoqué dans ce livre, puisque c'est un cinéaste que nous aimons beaucoup dans notre rédaction. Ce cinéaste, c'est Lucas Bellevaux. Et ce livre s'intitule « La mécanique ». Lucas Bellevaux, il a été coécrit par Quentin Mével et Louis Séguin. Il est paru chez Playlist Society. Et nous aurons le plaisir, durant cette émission, d'échanger avec Louis Séguin, qui est donc co-auteur de cet ouvrage et qui a signé l'introduction du livre, qui s'appelle en fait « Une affaire de morale », dans lequel il développe toutes les thématiques présentes dans le cinéma de Lucas Bellevaux avant que Quentin Mével se charge de l'autre partie de l'ouvrage, qui en constitue les trois quarts, qui est un entretien monstrueux donc avec Lucas Bellevaux. D'ailleurs, l'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Benjamin Fogel pour son aide sur cette émission.
Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Avant de retrouver donc Louis Séguin, co-auteur de l'ouvrage « La mécanique » Lucas Bellevaux, un peu vous présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le cinéaste Lucas Bellevaux. Alors Lucas Bellevaux, c'est un cinéaste qui a été découvert par beaucoup, par moi-même, je l'avoue, au début des années 2000, plus exactement en 2002, à travers une trilogie vraiment exceptionnelle qui s'appelle « Un couple épatant, cavale après la vie ». Ça, ce sont les trois titres qui ne forment en fait qu'un seul titre quand on en met bout à bout. Alors, Un couple épatant, c'est une comédie avec un couple qui est pris de doute, voilà, qui était une comédie assez épatante, voilà, une bonne comédie avec François Morel, avec Ornella Muti, voilà, enfin vraiment très intéressante. Et puis, il va y avoir ensuite Cavale, qui pour moi est un peu le gros morceau de la trilogie, puisque c'est le parcours en fait de Bruno, qui est évadé de prison, qui est joué d'ailleurs par Lucas Bellevaux, parce que Lucas Bellevaux, avant d'être réalisateur, a été acteur. Et il veut reprendre la lutte armée, en fait. Hein, c'est un quelque sorte, on pourrait l'apparenter à un brigadiste, hein, quelqu'un des Brigades Rouges. Bon, voilà, c'est un terroriste d'extrême gauche, en tout cas, c'est comme ça qu'il se voit. D'ailleurs, il a une réplique dans le film où il dit « Aujourd'hui, en 2002, il y a beaucoup plus de raisons de se révolter et de prendre les armes qu'à l'époque où on les avait pris ». Il y a le troisième épisode de cette trilogie qui s'appelle donc « Après la vie hein, », qui est tous les films ont été tournés en même temps, sont sortis en même temps, en fait. Hein. Et dans ce troisième épisode, le policier qui traquait, en fait, hein, quelque part, le terroriste du second, Pascal, qui est interprété donc, par Gilbert Melki, vit un drame, en fait, puisque sa femme Agnès, campée par Dominique Blanc, est toxicomane. Et alors, ce qui est intéressant avec ces trois films, donc, le premier est une comédie romantique, le deuxième, un thriller, le troisième... c'est un mélodrame, teinté de film noir, mais on est plus proche du mélodrame. Trois films tournés en même temps, on retrouve des scènes en commun, en fait, dans ces trois films, et c'est donc toutes des questions de point de vue, et c'est assez passionnant. Alors, on en reparlera de tout ça dans l'entretien, parce qu'évidemment, c'est dans le film. Il y aura ensuite... alors, il y a eu avant hein, des films... du coup, on a redécouvert après son cinéma. Hein, on a découvert Parfois trop d'amour, qui est un road trip dans le Nord, en fait. Et puis Pour rire, qui est une comédie qui datait de 96. Où il y avait Jean-Pierre Léo, et c'est pareil, il y avait Ornella Muti. Enfin, bon, voilà. Et ensuite, après la trilogie, il va faire La raison du plus faible, qui était une sorte de film noir qui raconte une histoire de casse, en fait, hein, organisée par des ouvriers, qui est un film là aussi passionnant. Il va s'inspirer de l'histoire du Baron d'Empin aussi pour faire Rapt en 2008. Il va retrouver Yvan Attal en 2010 pour faire 38 témoins, qui est un film sur l'histoire d'une femme qui a été assassinée en pleine rue la nuit au Havre. Et personne n'a rien vu, alors qu'il y a 38 témoins autour dans des bars d'immeubles. Voilà, donc, et puis, il va faire, moi, ce que je considère comme son meilleur film, hein, Pas son genre, en 2013, avec Émilie Dequesne, qui est l'histoire d'un amour, en fait, entre une coiffeuse à Arras et un professeur de philo. Voilà. Et en 2016, il va faire un film coup de poing, adapté d'un auteur... qu'on avait reçu dans l'émission, Jérôme Leroy, adapté du Bloc. Le film s'appelle « Chez nous », c'est un film sur l'extrême droite, encore avec Émilie Dequesne d'ailleurs. Et puis en 2020, devait sortir « Des hommes », adapté du livre du même nom de Laurent Mauvigné, voilà, qui est un film sur la guerre d'Algérie en fait. Et donc, il a construit comme ça, Lucas Bellevaux, toute une filmographie très cohérente, très riche, qui est évidemment de plein pied dans le cinéma de genre. En particulier, on sent qu'il aime le roman noir et le film noir, voilà, et qui est de plein pied aussi dans le... qui est un peu, moi, pour moi, qui est de plein pied dans le réel, qui pour moi, fait un peu de Lucas Bellevaux l'héritier de certains cinéastes, comme Yves Boisset, par exemple. C'est des films un peu comme Yves Boisset aurait pu les faire auparavant. Voilà. Donc, avec la patte Lucas Bellevaux, hein, Yves Boisset n'aurait jamais fait, par exemple, je pense, un film comme Pas son genre. Mais des films comme La raison du plus faible ou 38 témoins, les sujets, en tout cas, auraient pu intéresser des gens comme Boisset. C'est un peu pour vous donner une idée, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le cinéma de Lucas Bellevaux. Vous pouvez prendre ces films dans l'ordre parce qu'on voit du coup une réelle progression. Et si vous voulez vraiment découvrir la force, la richesse de son cinéma, vraiment prendre les films dans l'ordre, c'est bien parce que vous allez prendre une énorme claque en voyant sa trilogie. Donc, un couple épatant, Cavale, Après la vie. Voilà. Alors bon, je vais arrêter de parler, moi, tout seul, comme ça, dans mon coin, sur Lucas Bellevaux, et je vais parler avec Louis Séguin. Louis Séguin, il est donc le co-auteur de La mécanique Lucas Bellevaux, paru chez Playlist Society, avec Quentin Mével. Et Louis Séguin, donc, on va tout de suite le retrouver au micro de Culture Prohibée. Séguin.
Bonjour.
Avant d'aborder l'ouvrage La mécanique Lucas Bellevaux, que vous avez coécrit avec Quentin Mével, nous allons revenir un peu sur votre parcours. Vous avez écrit pour Transfuge, Trois Couleurs, Chronicart, vous écrivez dans les cahiers du cinéma, vous avez co-réalisé Les Ronds-Points de l'Hiver avec Laura Tuilly en 2016, vous avez réalisé deux courts-métrages, Saint-Jacques-Guélussac en 2018, Bus en 2019. J'ai envie de vous poser une question, est-ce qu'il vous arrive de dormir quand même?
Oui. Oui, ouais, non, c'est effectivement présenté comme ça d'un bloc, ça peut paraître beaucoup, mais non. Après voilà, la casquette critique réalisateur, c'est une sorte de tradition française à laquelle j'ai souscrit, ouais, c'est vrai.
Et puis voilà, vous inscrivez dans la, comment dire, dans la lignée des jeunes turcs en travaillant au cahier du cinéma et en étant aussi réalisateur, il y a une logique.
Ouais, voilà, bah c'est vrai que c'est une tradition qui a perduré au cahier du cinéma jusqu'aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de rédacteurs qui commencent à écrire et à faire de la critique de cinéma avec l'idée que ça va être une école pour apprendre à faire des films. Ce qui est mon cas, puisque donc moi j'ai pas fait d'école de cinéma et j'ai appris en voyant, au contact des réalisateurs et de la mise en scène, mais plutôt en écrivant dessus dans un premier temps.
D'accord. Voilà. Et comment vous avez rencontré donc Quentin Mével pour on va faire un ouvrage sur Lucas Bellevaux ou bon comment ce projet a pris forme, comment ce projet est né?
Bah alors c'est Quentin Mével qui travaille depuis quelques livres avec Playlist Society, avec Benjamin Fogel, voilà, qui est l'éditeur de Playlist Society, sur cette collection de livres d'entretien avec des cinéastes. Et c'est lui qui a eu l'idée, Quentin, de faire un livre d'entretien avec Lucas Bellevaux à l'occasion de la sortie de son nouveau film, donc Des Hommes, qui aurait dû sortir normalement en novembre en même temps que le livre. Et Covid oblige, le film sort en janvier. Mais voilà, donc c'est vraiment Quentin qui a eu l'idée de faire ce livre. Et il m'a contacté, lui, avec cette proposition de faire l'introduction, qui est un petit essai critique d'une trentaine de pages. Parce qu'il avait lu un dossier que j'avais réalisé dans le cadre de Lycéens au cinéma. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un dispositif pédagogique et c'est des livrets qui accompagnent un livre et qui est censé aider les profs à parler du film avec les élèves. Et donc moi, j'avais écrit un dossier pédagogique sur 38 témoins de Lucas Bellevaux. Et Quentin avait lu ce dossier, il avait trouvé que, j'imagine que je disais des choses intéressantes sur Lucas Bellevaux. Et il se trouve qu'effectivement, c'est un cinéaste que je trouve qui est vraiment intéressant et sur lequel il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites. Donc c'est aussi ça qui est agréable, de se dire qu'on défriche un petit peu une filmographie et un auteur. Donc j'ai accepté tout de suite. Et ensuite, on a travaillé à distance, où lui me tenait au courant un petit peu de l'avancée de l'entretien. Il m'envoyait des extraits, puisque c'est chapitré selon les films. Donc il m'envoyait un petit peu au fur et à mesure. Et moi, j'ai donc revu les films de Lucas Bellevaux. Et j'ai écrit l'entretien. J'ai écrit l'introduction critique.
Et quelle place il tient, Lucas Bellevaux, dans votre cinéphilie personnelle, dans votre panthéon personnel?
Alors, je pense que c'est un cinéaste que j'ai découvert, assez tôt, en voyant les films qui sortaient en salle, au fur et à mesure. Par exemple, je sais que le premier film que j'ai vu, je pense, c'était La raison du plus faible, qui est sorti en 2006. Donc je pense que c'est vraiment le moment où j'ai commencé, moi, personnellement, à voir beaucoup de films. Et c'est quelqu'un donc, que j'ai tout de suite identifié à la fois comme réalisateur et acteur, puisqu'il joue le rôle principal dans ce film-là. Et ensuite, c'est plutôt, je dirais, un peu film par film, mais parce que c'est un réalisateur, je pense, qui a un peu cette particularité d'avoir travaillé dans des genres très différents. J'ai vu les films un peu... selon les occasions. Par exemple, je sais que Pour rire, qui est son deuxième film, je l'avais vu dans un festival de cinéma. Je voyais les films au fur et à mesure. Et pour répondre à votre question donc, sur la place qu'il occupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui a les mêmes références et les mêmes, un univers cinéphile très proche du mien et je pense de beaucoup de cinéphiles. Il cite beaucoup les cinéastes classiques américains. Et aussi des cinéastes français comme Claude Chabrol, qui est très important pour moi. Donc c'est assez intéressant de voir en fait ce réalisateur cinéphile, de voir comment il transpose sa cinéphilie, sachant que moi-même je me pose les mêmes questions, c'est-à-dire comment, euh, comment réaliser des films après les modèles qu'on partage.
Et justement, Lucas Bellevaux, voilà, vous avez expliqué quelle place il tient pour vous dans votre cinéphilie, comment vous l'avez découvert, ça. Et quelle place selon vous, parce qu'il a vraiment une place un peu à part, moi je trouve, dans l'industrie du cinéma, on va dire franco-belge, quelle place il tient selon vous dans cette industrie, parce que je trouve que c'est un cinéaste, en fin de compte, qui a un parcours assez singulier par rapport à d'autres.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est l'avantage, à mon avis, du livre, parce qu'il parle très précisément aussi de ça, de sa place dans l'industrie. Je pense qu'il en parle assez lucidement. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a la place qu'il occupe dans l'industrie et la place qu'il occupe dans la cinéphilie. Et je pense qu'il est c'est le lot de beaucoup de cinéastes, mais chez lui c'est très particulier parce que je pense qu'il a une place assez stable, je dirais, dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à faire ses films, qui fait des films qui sont quand même assez bien financés, qui est identifié, je dirais, par l'industrie, justement. Et du point de vue de la cinéphilie, je pense qu'il a justement cette image, pour ceux qui le connaissent, quelque chose de travailler dans des genres très différents et de faire des films très différents. Et je pense que ça demande d'aller fouiller un petit peu et de s'y pencher vraiment pour comprendre un petit peu ce qui fait la cohérence de son œuvre. Un peu comme d'ailleurs les cinéastes que j'évoquais tout à l'heure, les cinéastes classiques américains comme Fritz Lang ou Samuel Fuller, enfin voilà, les cinéastes qui citent lui-même comme exemple. C'est des cinéastes qu'on a, au moment de l'avènement de la politique des auteurs, ce qu'on appelait la politique des auteurs dans la critique, c'était ça, c'est-à-dire de dire qu'on voyait toujours la patte d'un réalisateur d'un film à l'autre et d'un genre à l'autre. Et chez Lucas Bellevaux, j'ai l'impression que ça demande de faire ce travail-là, c'est-à-dire d'essayer de voir derrière les différences entre ces films, essayer de voir ce qui les unifie. Alors c'est un travail qui est, j'espère que ce livre va contribuer à le faire, mais qui pour l'instant est peut-être pas tout à fait encore fait, parce que voilà, je pense que ces films sont... Il a quelque chose peut-être d'apparemment un peu effacé. Il a quelque chose de pas ostentatoire, je dirais, en tout cas dans son style, quoi. Contrairement à d'autres cinéastes qui sont identifiés par des façons de faire, c'est-à-dire... Dès qu'on voit un plan de ses réalisateurs, on identifie leur style. Celui de Lucas Bellevaux s'efface peut-être derrière les sujets, en apparence, mais donc voilà. C'est à mon avis ce qui fait que sa place est un peu particulière.
Vous écoutez Culture Prohibée. Et ce qui le rend particulier aussi, ben vous l'avez dit il y a quelques minutes, mais c'est qu'avant d'être metteur en scène, il a été acteur. Alors on se rappelle tous de lui, en tout cas en facteur qui tombe un peu sous l'emprise de Pauline Lafont dans Poulet au vinaigre, je crois. Voilà. Comment pensez-vous que sa carrière d'acteur, en fait, a pu influencer, en quoi elle a pu influencer sa mise en scène, voilà, plutôt. J'ai essayé de causer correctement.
Oui, bah alors, ce qui est, bon, je pense que déjà, c'est ce dont je parle un petit peu dans l'introduction critique, je pense qu'il y a vraiment cette tension dans son cinéma entre voir et être vu, donc c'est très logique qu'il ait occupé un peu les deux places, puisqu'il y a vraiment une mise en scène en permanence du fait d'être témoin de quelque chose, ou alors d'épier quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de scènes de filature, de scènes de voyeurisme même dans son cinéma. Donc j'ai l'impression qu'il a un petit peu occupé le fait d'avoir occupé les deux places. Ça lui donne un peu... j'ai l'impression que ça enrichit beaucoup ce point-là de son cinéma. Ensuite, très concrètement, ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit dans l'entretien, il rappelle qu'en fait, cette place d'acteur, il pensait que ça allait lui donner une sorte de légitimité et qu'il allait avoir de la facilité à diriger les comédiens. Et qu'il allait avoir plus de mal sur le point technique, puisqu'il n'avait pas de formation technique. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé, parce que finalement, même s'il connaissait très bien le métier de comédien, comme il le dit, chaque comédien a sa façon de fonctionner, et c'est difficile de partir de son expérience personnelle, c'est ce qu'il dit lui en tout cas, c'est difficile de partir de son mode de fonctionnement en tant qu'acteur pour diriger d'autres acteurs. Donc finalement, il a dû apprendre à devenir un directeur de comédien, alors que sur le plan technique, visiblement, cette place de comédien qu'il avait eue lui au départ lui a permis d'apprendre la technique. Enfin voilà, c'est encore, bah, je le cite de mémoire, mais voilà, il dit que sur le plateau, il avait le temps en tant que comédien de regarder tout le monde travailler, et il a compris la technique du cinéma en étant comédien. C'était son école.
Oui, c'est vrai que c'est le moment où il explique dans le livre, c'est vrai que c'est assez rigolo puisque c'est paradoxal. Je rappelle, le livre, hein, s'appelle La mécanique Lucas Bellevaux, il est donc signé par Quentin Mével et vous, Louis Séguin. Et dans votre essai qui ouvre l'ouvrage, donc qui s'intitule, votre essai s'intitule Une affaire de morale. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas dire, parce qu'on parlait à l'instant de ce qui en gros fait le ciment de l'œuvre de Lucas Bellevaux, est-ce qu'on peut pas dire qu'en fin de compte tout le cinéma de Lucas Bellevaux, c'est une affaire de morale en fait?
Ouais, tout à fait. Ouais, bah c'est ça qui le rapproche aussi des cinéastes que je citais, c'est-à-dire Fritz Lang en tête. Lui, il en parle beaucoup, mais c'est aussi ce qui fait que je pense des gens ont été, enfin des gens, je parle de peut-être qu'il y a eu des réflexes un peu critiques. Et de réception de certains spectateurs par rapport à ces films, un peu de méfiance parce que justement on n'est plus habitué à voir un cinéma qui apporte un point de vue moral sur leurs personnages et sur les situations qu'ils filment. Donc je pense que ça a pu dérouter un peu, mais il se trouve que lui il l'assume complètement et en fait oui, Lucas Bellevaux c'est quelqu'un pour qui le cinéma peut avoir ce rôle-là, c'est-à-dire de d'évaluer des comportements, tout simplement, d'évaluer des a priori et des réactions. Voilà. Donc il y a des films qui sont, c'est comme vous dites, je pense que c'est l'affaire de tout son cinéma. Il y a des films où c'est plus évident que d'autres. Et je pense par exemple à 38 témoins, où là c'est vraiment presque, bah, déjà dès le titre, mais c'est presque un film judiciaire, quoi. C'est presque un film de procès avec reconstitution, etc. Et dans le dernier film, donc, qui sort en janvier, Des Hommes, c'est aussi le cas. Mais là, c'est vraiment d'un point de vue plus intime, puisque c'est vraiment la confrontation de plusieurs points de vue de différents personnages en voix off qui essayent de revenir sur leurs raisons et qui essayent de justifier un petit peu leur attitude, justement, la façon dont ils sont devenus pour certains des personnages répréhensibles presque entièrement. Et le film leur donne la parole aussi pour racheter presque leur comportement, j'ai l'impression.
Ah, c'est aussi un cinéaste très éthique, hein. Il est qui est traversé d'ailleurs par les problématiques de lutte des classes. C'est, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un des derniers cinéastes qui aborde tout le temps, quasiment dans tous ses films, pas quasiment, dans tous ses films, des questions de lutte de classe ou d'ailleurs même d'échecs, des luttes. Hein. Je pense même, quand il y a la réappropriation de la chanson « I Will Survive », qui est au départ plutôt une chanson féministe, mais qui a été un peu dénaturée par le fait qu'elle est devenue un hymne d'équipe de football. Quoi. C'est un cinéaste avec une grande éthique, en fin de compte. Hein.
Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est aussi cette éthique-là, ça entraîne forcément une déontologie du réalisateur, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que réalisateur, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer, comment on montre la violence, comment on montre. Voilà. Et donc, ça, tout ça, c'est des questions passionnantes. Je trouve que c'est pour ça que c'est aussi un cinéaste intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des questions qui se posent en permanence, et il répond d'ailleurs à beaucoup de ces questions aussi dans l'entretien, je trouve. Donc c'est vrai, effectivement, ouais, c'est une éthique qui entraîne une façon de réaliser.
Strangers meet and do consort, all blinked with desire. And a winter fog will thick me on, a winter fog will thick me on, a winter fog will thick me on. And I, who will be the witness? Who will be the witness? Who will be the witness when the fog's too thick to see? Side of
écoutez Louis Séguin, co-auteur de La Mécanique Lucas Bellevaux, paru chez Playlist Society, au micro de Culture Prohibée. Et d'ailleurs, vous en avez parlé déjà il y a quelques minutes, c'est quelque chose qui revient dès le début de votre essai, c'est la question du point de vue qui est centrale dans son cinéma. Alors, bien sûr, on pense à 38 témoins. On peut se souvenir aussi de sa brillante trilogie. Moi, je l'ai découvert par cette trilogie, en fait. Un couple épatant cavale après la vie, hein, qui était le premier film, une comédie, le deuxième, un thriller, le troisième, un drame. Et vous parlez d'un fantasme illusoire. C'est-à-dire que vous, de croiser tous les points de vue, vous dites que c'est un fantasme illusoire. Pourtant, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Moi, Lucas Bellevaux, il y arrive presque, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire à la fois la confiance qu'on ne va pas établir une vérité intangible, parce que la vérité, je pense, enfin voilà, ce qui est défini comme la vérité dans le cinéma de Lucas Bellevaux, c'est toujours de toute façon un récit et le point de vue qu'un personnage a eu sur des événements. Alors après, évidemment, si c'est un seul personnage qui parle, on n'a que son point de vue. Si ça en est plusieurs, d'un coup, on commence à avoir quelque chose qui ressemble plus à l'objectivité. Seulement, il faut être conscient qu'il manquera toujours des points de vue pour avoir un récit de l'événement qui est complètement objectif. Et je pense que ce qui est important, c'est à la fois de se dire qu'on n'arrivera jamais à être tout à fait objectif et en même temps que ça n'empêche pas d'essayer et de tendre vers l'objectivité. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe dans les films de Lucas Bellevaux. Et effectivement, il réussit plutôt pas mal. En tout cas, enfin, je trouve qu'il y a même des films qui sont très virtuoses dans... dans la confrontation des points de vue. Et c'est sûr que la trilogie, pour moi, c'est assez impressionnant. Enfin, même de réussir, d'un point de vue même de l'industrie, comme on en parlait tout à l'heure, de réussir à produire 3 films en même temps comme ça, c'est quelque chose de très colossal, dont un des films dans lequel il a le rôle principal. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez magistral.
Et puis, il y a un rôle, un rôle fort en plus, hein, qui demande beaucoup d'implication, quoi. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce qu'on parlait de Fritz Lang, on parlait, avec toutes les thématiques qui traversent le cinéma de Fritz Lang aussi, on parlait de Fuller, puisqu'il les cite dans l'entretien, mais il y a aussi un héritage hitchcockien, quelque part, chez Belvaux, parce que c'est un cinéaste scopophile, un peu comme Hitchcock, quoi. Voilà, c'est vraiment la question du regard et tout, elle est prépondérante chez lui, quoi, et du regard qui est porté par la caméra, quoi.
Ouais. Et je pense qu'il y a aussi cette conscience, d'ailleurs, vous dites scopophile, et donc on pense à Fenêtre sur cour, au côté voyeur. Et c'est sûr que je pense que Lucas Belvaux a conscience aussi de ça dans son cinéma, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des scènes de filature, il y en a quand même vraiment beaucoup dans son cinéma, et c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire que d'assumer cette part de plaisir qui est évidemment une métaphore aussi du spectateur, c'est-à-dire le plaisir qu'on prend à voir, à scruter, à observer... et à espionner, voilà. Et donc, c'est sûr qu'il a ça en commun avec Hitchcock, plus, évidemment, un sens du suspense et un sens aussi, c'est marrant, parce que une des phrases d'Hitchcock qu'il cite dans l'entretien, c'est « ça prend du temps de tuer un homme », ce qui est, ça veut dire qu'il prend aussi, ça veut pas dire un rythme effréné d'être hitchcockien, dans son cas, ça veut dire vraiment de prendre en considération tout le labeur qu'induit une idée scénaristique, voilà. Donc une idée de polar, une idée de thriller, dire ce personnage va disparaître, ce personnage va en tuer un autre, etc. Il y a toujours quelque chose d'assez, laborieux qui résiste. Enfin voilà, le réel résiste au plan des personnages. Ça, c'est, je pense que c'est aussi un point commun avec Hitchcock, quoi.
Bien sûr. Et il y a aussi quelque chose que vous abordez, moi, dans le livre, qui est dont on parle vraiment jamais quand on parle de Belvaux, c'est la place du quiproquo. Vous dites qu'elle est omniprésente dans son cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que je vous avoue, quand j'ai lu ça, je me rappelle, évidemment, je me suis rappelé de Pour rire, quoi, le film avec Jean-Pierre Léaud, mais je cherchais d'autres quiproquos. Puis après, c'est expliqué, évidemment, vous l'expliquez dans votre essai, mais c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle jamais quand on parle du cinéma de Belvaux.
Oui. En fait, c'est assez logique, puisque comme ce que je disais tout à l'heure, le fait que... ils croisent les points de vue, ça fait toujours que on va devoir évaluer la conformité d'un récit avec ce qu'on a vu nous spectateurs. Et de fait, il y a toujours. Effectivement, c'est plutôt le quiproquo par nature est quand même souvent un peu plus présent dans les comédies. Donc en fait, ça arrive plutôt dans Pour rire, c'est sûr que c'est omniprésent, mais dans Cavale aussi, par exemple, Un couple épatant, c'est un film entièrement construit sur le quiproquo, où les deux personnages principaux s'espionnent l'un l'autre et en fait n'arrivent qu'à avoir des informations fausses. Donc c'est presque une sorte de quiproquo au carré. Alors c'est évidemment les deux exemples principaux. Après, je dirais que c'est de façon latente, un peu présent partout, puisqu'il y a toujours la question de savoir si on n'a pas rêvé, si ce qu'on a vu c'est bien ce qu'on a vu, etc. Et ça, c'est aussi une question centrale, par exemple, dans 38 témoins, quoi. C'est-à-dire, il y a plusieurs témoins qui, pour leur défense, plaident le quiproquo. Donc là, c'est un quiproquo de circonstance et un quiproquo, en fait, même de mauvaise foi, puisqu'on se rend compte que les témoins... Enfin voilà, je ne raconte pas l'histoire de 38 témoins, mais en tout cas, c'est des gens qui prétendent ne pas avoir été témoins alors qu'ils l'ont été, témoins d'un meurtre. Ça, c'est aussi, à sa façon, un quiproquo. C'est-à-dire, on peut prétendre qu'on a vu un personnage... qui avait l'air ivre, alors qu'en fait, que le personnage était en train de mourir. Donc, disons que c'est le revers, un petit peu, ce qui est surtout un ressort comique dans le cinéma de Lucas Belvaux, il a aussi son revers dramatique.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Lucas Bellu. Il y a aussi un truc, moi, qui, par rapport à Bellevaux, je trouve que la critique n'a pas toujours été tendre avec lui. Hein, et je trouve qu'il a souvent été victime d'attaques assez injustes, en fait. J'ai lu dans plusieurs critiques quand même que la raison du plus faible, c'était un film simpliste, que chez nous, c'était un film où on fantasmait beaucoup de choses sur l'extrême droite, ce qui est absolument faux d'ailleurs, quand on connaît les mécanismes de l'extrême droite, et je pense qu'il était très documenté pour faire son film. Moi, je trouve que c'est un peu facile de taxer Lucas Bellevaux, d'être un peu manichéen, quoi.
Ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que dans le détail, c'est pas le cas. Par exemple, la raison du plus faible, c'est plutôt une démonstration de l'échec de la théorie de la lutte des classes. Enfin, c'est presque... Et d'ailleurs, il a été attaqué aussi sur l'inverse, c'est-à-dire on lui a aussi dit, on reprochait de ne pas soutenir la violence révolutionnaire quand il a fait cavale, parce que justement, il montre un personnage qui est un petit peu enfermé dans un délire. Donc oui, je pense que ça tient au fait, cette réception, ça tient au fait qu'on n'est plus habitué justement et qu'il y a quelque chose de presque... Il y a presque quelque chose d'un peu ingrat dans la tâche que se donne Lucas Bellevaux, peut-être, de vouloir montrer que certaines catégories de pensée sont toujours efficientes, quoi. Enfin, pour le dire clairement, en gros, lui, il dit que la lutte des classes, bah, c'est une grille de lecture qui a toujours sa raison d'être, qui est toujours pertinente et qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est reçu, enfin, aujourd'hui, ou peut-être, enfin, en tout cas, à l'époque où c'est sorti, peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un film comme ça ne serait pas reçu de la même façon. Ce serait intéressant de le voir. 15 ans plus tard, La raison du plus faible, je ne sais pas s'il serait reçu pareil. Mais oui, voilà, et chez nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu, moi, je trouve courageux, vraiment, mais d'un peu ingrat à se dire, on va faire une enquête sur le Front National et on va en faire un film qui est assez patient et justement qui essaie de déconstruire les discours, les stratégies oratoire d'un parti politique, et je pense que, enfin, lui se dit, et moi je suis d'accord avec ça, que le cinéma peut permettre ça, et je pense que en fait voilà, une partie de la réception critique est plutôt hostile à ce travail là quoi, mais par un peu par principe idéologique aussi, quoi, je pense.
Oui, complètement. D'ailleurs, moi je trouve que il a même fait un grand film bourdieusien qui est assez méconnu. C'est pas son genre. Je trouve que c'est un grand film, mais franchement, tout le monde est un peu passé à côté de ce film. C'est un grand film, et puis, comme d'habitude, une grande performance d'Émilie Dequesne. Mais c'est quand même un film qui est un peu différent du reste de sa filmographie, mais qui je trouve, est un grand film méconnu.
Moi, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un de mes films, sinon mon film préféré de Lucas Bellevaux. Et effectivement, alors je me souviens à l'époque quand il est sorti, j'avais déjà commencé à faire un peu de, enfin voilà, à écrire de la critique, et donc là j'avais participé, enfin j'avais discuté avec des gens, et on était quand même quelques-uns à reconnaître, à voir que c'était un très beau film, justement, bah, comme vous dites, bourdieusien, et voilà, et non, ouais, je suis complètement d'accord, c'est vraiment un très beau film. Moi, je trouve qu'il est à la fois effectivement différent de ses autres films, et en même temps, on retrouve Lucas Bellevaux. Je trouve que peut-être une façon d'identifier Lucas Bellevaux, c'est par ses fins de film. J'ai l'impression qu'il a une façon de finir les films, il y a une façon, Lucas Bellevaux, de finir les films. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a beau être dans une comédie romantique, qu'on soit dans une comédie romantique, un thriller, un drame, etc., ou un film politique, j'ai l'impression qu'il y a toujours la même façon de nous abandonner sur... de laisser le film sur un abandon, justement. Et la fin de Basson Genre, elle est très forte, je trouve, là-dessus, sur la façon dont un personnage, sans vouloir donc révéler la fin, mais un personnage est abandonné. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est un film vraiment très, très, très... Quand on revoit ou quand on découvre ces films, finalement, c'est un film qui a vraiment sa cohérence, en plus, dans l'œuvre de Lucas Bellevaux, je trouve.
Ah bah complètement, quand on parle de morale, d'éthique, de thème, voilà, l'aspect...
Et puis du Nord aussi, parce que, enfin voilà, c'est vrai, il a beaucoup filmé le Nord et la Belgique, enfin sa région d'origine.
Et puis, il y a, quand vous parliez, ça me vient comme ça, mais quand vous parlez de la manière qu'a Lucas Bellevaux de finir ses films, c'est son côté très fuleur aussi, c'est très implacable en fait. Ses fins de films sont assez implacables, je trouve, dans tous ses films.
C'est ça, c'est-à-dire que, et c'est pas forcément d'ailleurs, c'est pas, je dirais, la moralité qui vient clore la fable et une façon de voir les choses, mais c'est plutôt, une sorte de coup qu'un personnage se prend, mais ce coup-là, c'est pas un coup qui est donné par le réalisateur, c'est vraiment d'être confronté tout d'un coup au réel, d'être confronté, peut-être justement, j'ai l'impression que les fins des films de. Lucas Bellevaux mettre un peu un terme au quiproquo dont on parlait tout à l'heure. Donc, par exemple, dans Chez nous, c'est pareil, la fin, c'est quelque chose d'assez brutal, où d'un coup, Émilie Dequesne, mais très brutalement, se réveille de ses illusions. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais c'est un peu comme ça tout le temps, j'ai l'impression.
Vous écoutez Louis Séguin au micro de Culture Prohibée. il y a aussi quelque chose qui caractérise le cinéma de Lucas Bellevaux, qui fait d'ailleurs que c'est aussi un grand cinéaste populaire. Moi, j'entends au sens où, voilà, ses films sont hyper accessibles tout en développant des thématiques et des propos, en fin de compte, très complexes. C'est son attirance pour le cinéma de genre, quoi. C'est un fada de cinéma de genre, quand même, Lucas Bellevaux, parce qu'en fait, si on regarde bien sa filmographie, c'est toujours du cinéma de genre.
Oui, ça c'est notable qu'il a travaillé dans des genres très différents, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très courant. Alors ensuite, oui, effectivement, il y a des genres, on voit qu'il est plus sensible à des genres plus que d'autres, par exemple le thriller, les films policiers, parce que c'est, je pense, sa culture aussi cinéphilique profonde, quoi. Il a commencé à aimer le cinéma avec ça. Ensuite, moi, je trouve qu'il est très fort en comédie, que ses comédies sont très fortes. Et ce qui est intéressant aussi, hein, pareil, je cite de mémoire ce qu'il dit dans l'entretien, mais à un moment, il évoque le fait que c'est pas le jeu des comédiens qui fait le genre du film, mais c'est vraiment la situation. Et ça, c'est, il y a la trilogie. C'est évidemment théoriquement passionnant, quoi, et même, je veux dire, au visionnage, c'est passionnant de voir comment la même scène, selon le point de vue, appartient à des genres complètement différents, quoi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui le caractérise très profondément.
Et est-ce que vous avez pu voir, du coup, comme vous l'avez rencontré, est-ce que vous avez pu voir Des Hommes, d'après le livre éponyme de Laurent Mauvignier, parce que c'est... On l'attend tous, quoi, quand on aime le cinéma de Lucas Bellevaux, on se demande ce qu'il a pu faire d'un tel ouvrage.
Oui, j'ai vu le film. Et effectivement, ouais, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment un film qui est aussi très intéressant là-dessus, quoi. Et sur la confrontation des points de vue, on est complètement là-dedans. Et aussi sur la reconstitution, puisqu'il y a un enjeu. Alors, je ne vais pas dire grand-chose, parce que bon, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure il faut déflorer... un film avant sa sortie, mais bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a d'une part des confrontations de points de vue qui orchestrent le film, mais comme cette confrontation orchestre le livre, d'ailleurs, c'est-à-dire vraiment des longs monologues intérieurs des personnages, et ensuite, il y a donc la question de la reconstitution des faits dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Et là, la question se pose avec d'autant plus, je dirais, de force que c'est un film qui parle de la guerre d'Algérie. Et donc, il y a des enjeux de reconstitution et de tous les enjeux de la reconstitution dans les films, de la reconstitution historique dans les films. Donc là, c'est encore un nouveau genre, je dirais, puisque voilà, c'est un film avec des scènes en costume, des scènes de reconstitution, de guerre, etc.
Je vais rappeler le titre de l'ouvrage, hein, « La mécanique Lucas Bellevaux » chez Playlist Society. Donc c'est écrit par Quentin Mével et vous, Louis Séguin. Je le répète souvent, ce que j'aime beaucoup dans cette petite collection d'entretiens et dans les livres généralement publiés par Playlist Society, c'est que ce sont des livres en plus qui sont très abordables en termes de prix, puisque là, pour 8 euros, on se fait un entretien où vraiment on décortique toute la filmographie de Lucas Bellevaux avec lui-même. Et en plus, on a le droit en prime, donc à un essai que vous avez signé en ouverture d'ouvrage. Je voulais vous poser comme question, un peu avant qu'on se quitte, vu la période qu'on traverse tous là actuellement et que traverse le monde de la culture, le monde du cinéma. Vous en êtes où, vous, de vos projets? Est-ce qu'il y a des choses en route, des choses en cours, voilà, quoi? Ou alors, est-ce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué? Voilà.
Eh ben, alors, merci déjà de prendre des nouvelles. Mais moi, je suis pas du tout le plus à plaindre, parce que j'étais dans une phase d'écriture, plutôt. Donc, en ce qui me concerne, voilà, j'ai un film, un moyen-métrage que j'essaierai de tourner dès qu'il se sera possible. Même si des tournages ont continué à avoir lieu là pendant ce deuxième confinement, mais moi normalement je devrais le tourner au printemps ou à l'été, et il est en cours de financement, donc pour l'instant c'est des choses qui peuvent se faire à distance. Et je suis aussi en train de développer mon premier long métrage, et c'est pareil, je suis en phase d'écriture, donc c'est des choses qui sont compatibles avec le confinement. Donc moi pour l'instant c'est pas je suis pas du tout le plus à plaindre, mais ce qui est compliqué, bon, c'est évidemment parce que je m'occupe aussi d'un ciné-club qui n'a plus lieu, puisque les salles sont fermées, évidemment. Et donc, moi, je le vois évidemment par rapport à ça, mais donc pour bien connaître les exploitants, et je sais que c'est une situation, la situation est dramatique pour eux, sachant que la situation était d'ailleurs pas très réjouissante même avant tout ça, donc là oui, c'est très compliqué pour eux. Voilà, et ça aura évidemment une influence sur tout le secteur, donc bon, on est tous un peu inquiets, mais voilà.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission réalisée avec le concours de Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.